bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Retour de l'info à midi.
Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Aujourd'hui autour de la table, et non, toujours pas de Nagui, mais Albert Agou.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour Daniel.
En deuxième heure, Tanguy Pastureau se retourne à la table également. Et bien sûr, à mes côtés, l'excellente Leïla Kaddour-Mounadi.
Salut Daniel Laurent, bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui est Ronan Capuçon.
Oh Ronan.
Bonjour Renaud, soyez le bienvenu dans la bande originale.
Merci,
on est ravis de vous accueillir. Comment allez-vous ?
Je vais très bien.
Ouais.
Ouais.
Juste très bien.
Oui.
Ouais. Oui, non, j'ai pas dormi entre 3h et 7h, mais je vais très bien.
Ouais, alors, je sais que vous avez un emploi du temps très chargé. De toute façon, c'est un peu votre vie d'être tout le temps parti, de jouer à l'autre bout du monde. Je vous
de
suis
dormir.
Sur les réseaux sociaux. C'est un voyage permanent.
Oui, c'est ma vie de musicien, mais c'est une vie géniale. Juste quand je dors pas bien, c'est moins bien.
C'est moins bien. En tout cas, quand un violoniste virtuose reprend une vingtaine de grands thèmes musicaux écrits pour le cinéma, ça donne l'album Cinéma, Renaud Capuçon. Un album qui est déjà disque d'or. Félicitations à vous, vous n'avez même pas vraiment besoin de venir chez nous pour parler de cet album, tellement c'est un succès.
Au revoir Renaud Capuçon.
C'est un album dans lequel vous reprenez en effet des grands classiques, des films, on va revenir sur ça avec vous, Cinéma Paradiso, d'Ennio Morricone, Le Parrain de Nino Rota, Le Mépris de Georges Delerue, La Liste de Schindler et bien d'autres, et le tout avec un très bel orchestre. C'est l'orchestre...
Les Tuches.
Non, pas Les Tuches encore, ça sera pour le tome 2, l'opus 2 ou l'opus 3
les
de Renaud Capuçon.
C'est vrai.
Avec un très bel orchestre, le Bruxelles Philharmonique, qui est dirigé par Stéphane Denève. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, comme la tradition le veut, c'est l'interro.
Encore
eh ouais, si, c'est
interro
parti.
Déjà.
Interro. Interro Renaud Capuçon.
Du violon.
On va voir si vous avez vraiment bien bossé. À 8 ans, Renaud voulait bien être violoniste, mais uniquement quand ?
Le soir.
Le week-end.
Non.
Pendant l'école.
Non.
À l'église.
Non,
entre 4h et 7h du mat.
Le dimanche.
Pensez à là où Renaud a grandi.
À la montagne.
Ouais.
Sur les pistes.
Ouais.
En extérieur.
Violoniste d'extérieur.
Quand il n'y a pas de neige.
Absolument. L'été. Ah, bravo, Fred.
L'été, okay.
Bravo.
Bien joué. Ah oui, c'est comme ça qu'on appelle l'été.
C'est
quand il n'y a pas de neige.
Renaud, expliquez-nous.
Non, en fait, oui, comme j'adorais le ski, j'adore toujours le ski, j'y vais dans quelques jours. Je voulais être. J'arrivais pas à choisir entre skieur et violoniste, donc j'avais dit que je voulais être skieur l'hiver et violoniste l'été. C'était totalement un truc saisonnier, quoi.
C'est ça, saisonnier de la musique. On continue. Que fait toujours Renaud avant de prendre une décision ?
Il boit un thé.
Non.
Il en parle à sa femme.
Il mange, c'est un truc...
Ça pourrait être ça, Daniel, mais non.
Il boit un litre de vin.
Non plus.
Il joue du violon.
Il part courir.
Non plus, non.
Il fait du ski.
Non plus.
Je veux pas, je tente.
Une activité reposante.
Il yoga, il médite.
Il fait une sieste.
C'est du yoga.
Il fait une sieste. Bravo, Daniel.
Bah, pas avant chaque décision, parce qu'autrement, je dormirais toute la journée.
Parce que ça va pas du tout à ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein.
Non, après chaque. Enfin, quand il y a des décisions très. En fait, quand il y a une décision où on n'arrive pas à se décider, ça doit vous arriver aussi. Quand on a droite-gauche, on n'arrive pas, il faut prendre une décision. Et au lieu de s'énerver.
C'est Bérous.
Voilà. Et tout d'un coup, de dormir un quart d'heure, ça. Ça aide.
Et ça porte conseil ?
Pour moi, ça fonctionne, mais on se réveille avec l'idée assez claire.
Vous faites ça quand vous êtes en voiture aussi ?
Alors justement,
droite-gauche.
Quelle est la dernière grande décision prise grâce à une sieste ?
C'est des décisions que je ne peux pas forcément partager. C'est des décisions de vie ou des décisions. Non, mais c'est des décisions parfois personnelles, des choses de stratégiques, de vie musicale ou de. Oui, des choses importantes, assez perso et parfois dont on peut parler vraiment à personne.
Oui. Donc ma chérie, il faut que je te parle. Ah, t'as fait une sieste.
Vous avez fait la sieste avant de lancer Cinéma, avant de vous lancer dans l'album ?
Non, parce que c'est une décision qui m'a pris, qui a été très facile à prendre pour enregistrer ce disque, mais j'ai mis 10 ans. Quoi.
10
voilà,
ans
j'ai
pour
attendu,
décider.
J'ai attendu, voilà, j'ai pris beaucoup de temps.
Nouvelle question concernant Renaud Capuçon. Renaud est un collectionneur. Mais que collectionne-t-il ?
Des archets.
Non.
Des c'est un rapport avec la musique ? Des médiateurs ?
Non, ça n'a pas de rapport avec la musique.
Des bâtons de ski.
Non.
Non. C'est des objets.
Des
figurines.
Des fers à repasser.
Non plus.
C'est volumineux.
Non plus. Des boîtes de camembert. C'est un objet qu'on peut porter sur soi.
Des bagues, des boucles d'oreilles,
des cravates, des portefeuilles,
des slips,
boutons de manchette.
Non plus.
Œil de verre.
Des lunettes. Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme indice, Renaud ? Il a dit quoi ?
Un œil de verre ?
Des lunettes.
Un œil de verre. Ok, un œil de verre.
Monocle.
Des lunettes.
Des longues vues.
Non.
Des longues vues.
Des stylos, des plumes.
Stylos, absolument.
Il n'y a pas eu d'indice du tout.
Non, j'ai fait un petit geste, non, parce que je me suis dit que ça va durer 4 plombes, on va pas y arriver.
Enfin, je collectionne.
J'en avais deux.
Non, j'aime bien les stylos. J'ai un truc avec les stylos et les carnets. C'est très, très bizarre. Je pense qu'il y a un côté. Quand j'adorais l'école, en fait, mais j'adorais l'école, pas pour pas l'idée d'aller à l'école, mais l'idée d'apprendre. J'adorais écrire, j'adorais acheter des cahiers. C'est très bizarre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand il y a une pile de calepins neufs qui trônent à la maison, dès que vous partez en voyage,
j'ai des cargaisons de carnets en avance, au cas où j'ai subitement des grandes idées pour écrire.
Une fulgurance.
Non, pas de carnet de chèque, mais
c'est dommage.
Non, et mon fils veut toujours me les prendre. Et je lui dis non, mais t'en as tellement, je peux t'en prendre un. Je dis non, tu peux pas parce que c'est là, je vais certainement écrire dessus. À
un jour, je vais écrire dessus.
Pas partageur.
Est-ce que vous faites comme Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous en volez aussi?
Joker.
Dernière question sur Renaud. Qu'a demandé Renaud au public le soir du 11 septembre 2001 alors qu'il donnait un concert à Jérusalem?
Une minute de silence.
Pas loin, oui, c'est
une
ça.
Une heure de silence.
De ne pas applaudir, ouais. Absolument. Bravo, Jérémy.
Merci.
Vous revenez sur cet événement, Renaud?
C'était incroyable. On se souvient tous, on était le 11 septembre 2001. Moi, j'étais à Jérusalem. On avait un concert prévu avec un programme qui était assez ludique. Et donc, on a d'abord parlé pour se décider, est-ce qu'on maintient le concert ou est-ce qu'on annule? La moitié voulait annuler le concert et l'autre moitié, dont je faisais partie, voulait jouer. On a finalement décidé de jouer. Et par contre, on a demandé au public de ne pas applaudir. Mais le public n'aurait pas... Enfin, le public qui est venu en masse ce soir-là, d'ailleurs... Toutes les places étaient prises. Et étonnamment, personne n'a annulé. Et je ne pense pas que quiconque avait envie d'applaudir en fait, ce soir-là. Donc, c'était un moment, je me souviens, en fait, c'est une des rares fois où j'ai senti le poids de la musique, le poids physique. Mmh. Je l'ai senti aussi le 11 novembre, quand j'ai joué pour cette cérémonie sous l'Arc de Triomphe, cette année. Le poids de l'histoire, en fait. On sent un moment à la fois historique, partagé par tout le monde, enfin par beaucoup, beaucoup de monde en même temps, et où la musique prend un relief encore plus fort que d'habitude.
Vous avez joué aussi à Strasbourg, à la cathédrale, récemment?
Oui, ça fait partie aussi des moments très forts, parce qu'en communion avec toute une communauté, là où on se rend compte vraiment que la musique va bien au-delà des mots, et qu'on peut toucher toutes les générations, toutes les catégories sociales, toutes les religions. Ça, c'est ce qui me conforte dans cette idée que la musique est ma vie.
Une petite dernière sur Renaud Capuçon. Allez, pourquoi les voisins de Michel Simès détestent Renaud?
Parce qu'il répète, parce qu'il joue.
Pourquoi les voisins de Michel Simès détestent Renaud Capuçon?
Parce que ce sont les voisins de Renaud Capuçon.
Non.
Parce que Michel Simès adore écouter Renaud Capuçon à fond.
Non, c'est pas parce qu'il aime écouter Renaud.
C'est un peu tiré par les cheveux, mais je pense que je vois la réponse.
Les voisins l'aimeraient, sinon.
Parce que c'est le voisin de...
Non, c'est pas le voisin.
Ah, parce que Renaud Capuçon a donné des conseils à Michel Simès de diction ou de chant,
de violon. Pas de diction ni de chant, non, un autre instrument.
De violon. Non. De flûte, de guitare,
de piano,
de tuba, de clarinette,
de trompette.
Pas loin.
Le saxophone.
C'est un point
de corde de chasse.
C'est le saxo.
Vous avez Michel Simès, c'est du saxophone.
Vous avez eu cette bonne ou mauvaise idée, je ne sais pas, Renaud, d'inciter Michel Simès à jouer du saxo?
Alors, en fait, il m'a posé la question. Quand il a voulu commencer un instrument, il m'a dit qu'il aimerait faire de la clarinette. Et je lui ai dit, peut-être, essaye plutôt le saxo, ça serait plus adapté. Donc, il a commencé le saxo.
Pourquoi c'est plus adapté?
Bon, je ne sais pas, parce que quand on commence un instrument, il voulait jouer du jazz, etc. Et je lui dis, je pense que tu te feras plus plaisir avec le saxo.
Ouais.
Et on a joué ensemble pour mes 40 ans. Et c'était... Il m'en a beaucoup voulu après, parce qu'en fait, il a eu tellement le trac que depuis, je crois qu'il n'a pas retouché son saxo.
C'est vrai.
Ouais, donc, je m'en veux vraiment
d'avoir vacciné. Demandé...
Ouais. Mais il nous l'a dit, c'est à plusieurs reprises, il vous déteste. Hein. vraiment.
Plus que Nagui, d'ailleurs.
Revenons à cet album cinéma qui est Disque d'or. Cet album sur lequel on peut trouver quasiment une vingtaine de grands thèmes musicaux composés exclusivement pour le cinéma, parmi lesquels Cinéma Paradisio.
Thank you.
Ça aurait pas eu même rendu au cas où.
Ennio Morricone, ça a été un choix évident pour vous, ouvrir l'album par ce morceau.
Oui, parce que j'ai découvert vraiment, je crois, c'est un des premiers films dont je me souvienne au cinéma. J'avais 12 ou 13 ans. Et cette musique m'a complètement bouleversé. Je me souviens que j'étais allé à la médiathèque de Chambéry pour emprunter le disque à l'époque, pour l'enregistrer sur ma petite cassette. On avait des cassettes qu'on a tous connues, ouais, les cassettes audio, TDK.
Pour rembobiner au crayon.
Exactement. Et j'ai écouté cette musique des centaines de fois. J'avais été évidemment touché par l'histoire, par le film. Mais c'est un des points repères de ma vie cinématographique. On a tous des repères cinématographiques dans nos vies.
Moi personnellement, c'est ce titre-là qui m'a bouleversé, c'est la liste de Schindler.
Ça, c'est un autre moment aussi très fort.
John Williams, la liste de Schindler. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un peu de la genèse de ce projet? Depuis quand vous dites une dizaine d'années que ça vous trotte dans la tête?
Ça fait plus que ça. En fait, j'ai découvert toutes ces musiques. Bon, j'avais découvert cette musique de Schindler List dans le film, qui est jouée sublimement par Isaac Perlman, avec cette sonorité chaleureuse, etc. Donc, je me souviens très bien de ce moment-là. Et puis ensuite, Perlman, ce même Perlman, a fait un disque.
Cinéma Sérénade.
Exactement, dans les années 95, 2000, que j'ai écouté. Je pense que je suis celui qui est le plus écouté au monde. Il faudrait que je le dise un peu. Et l'idée est venue inconsciemment à ce moment-là. Je me suis dit, un jour, j'aimerais faire la même chose. Voilà. On a tous des rêves comme ça.
Ouais.
Et puis, quand j'ai signé avec ma maison de disques, j'y pensais pas, mais ça revenait régulièrement. Je me disais, tiens, un jour. Et puis... ensuite, ça c'est devenu un peu plus concret et ça a pris quand même 10 ans.
Vous avez fait une sieste, hop, vous avez décidé, vous avez appelé la maison de disques. Alors comment choisir? Est-ce que c'est les films qui ont retenu votre attention? Est-ce que ce sont plutôt les compositeurs?
C'est un peu tout à la fois. C'est d'abord les musiques, vraiment. Par exemple, pour Cinéma Paradiso ou Schindler List, c'est clairement les musiques. Pour Mission aussi, pour Out of Africa, Légende d'automne, c'est vraiment des thèmes musicaux qui m'ont marqué. Après, ça, on a fait une recherche aussi. Un peu plus sur des compositeurs. Donc, par exemple, le Mépris de Delerue.
On va mettre le Mépris.
Qui est une œuvre absolument incroyable.
Ouais. Ils nous ont quittés cette année.
Renaud ?
Non, mais c'est. En fait, on se rend compte à quel point ces compositeurs ont ce sens du timing et de synthétiser en très peu de temps. Un thème et le magnifier sur quelques secondes.
Oui.
Ce qui est extraordinaire avec la musique de film, c'est ça, c'est qu'en fait, en 3 minutes, et là, on reconnaît le Mépris en quoi, 3 secondes.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est une sorte d'immédiateté que je trouve assez incroyable. Et tous ces compositeurs ont cette capacité-là, parce qu'ils sont limités dans le temps. Donc beaucoup, les paramètres d'un compositeur de film, c'est ça, c'est de musique de film. Ils ont des clics, ils ont des secondes, et ils doivent faire apparaître un thème dans tel timing. Donc c'est une qualité qu'il faut avoir. Et voilà.
Et vous avez eu du mal à avoir toutes les autorisations, parce que j'imagine qu'on ne peut pas reprendre comme ça.
Ça a été assez complexe. C'est la maison de disques qui s'occupait de ça. Il y a eu pas mal de négociations avec certains compositeurs.
Il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, on va le dire, dans cet album.
Beaucoup de Français, oui. Volontairement, avec Desplat, qui est le plus jeune d'entre eux, mais aussi Cosma, Delerue.
Le Grand.
Tiersen, Le Grand. Enfin, voilà, tous ces compositeurs qui ont marqué. Quand on parle de Le Grand, ouais, qui nous a quittés récemment, mais quand on parle de lui aux États-Unis, c'est vraiment un compositeur qu'on nous envie.
Ouais.
Qu'on nous envie. Et j'ai l'impression qu'en France, c'est toujours pareil, on voit moins les choses. Le Grand, c'est complètement mythique ailleurs.
Ouais.
En France, il nous appartient, bien sûr, il appartient au patrimoine français, on en est fiers, mais on se rend compte vraiment de la notoriété de ces gens quand on franchit les frontières. C'est, oui, incroyable.
Justement, sur Michel Legrand, on entend là l'été 42, un morceau que vous avez joué sur la scène des Victoires de la Musique.
Absolument.
Classique pour lui rendre hommage.
Vous avez chanté d'ailleurs aussi.
Oui, alors ça, on va oublier ce petit moment.
Ah bah non, faut pas oublier
mais,
ça.
Mais on parle, non, non,
et bien, alors, on écoute.
On n'a pas le son. Merci
ça
Renaud.
Peut se trouver.
Alors, dommage, ça fait 1-0, mais je vous ai au retour. Justement, avec Michel Legrand, le choix doit être très complexe, parce que là, vous prenez un été 42, mais quand on voit, en effet, tout
ah, là, c'est vertigineux. Les Moulins de mon cœur aussi, qui étaient vraiment, qui faisaient partie des pièces que je voulais enregistrer, mais on pouvait pas, voilà, il fallait faire un choix. Mais il y a la liste, en fait, là, vous avez dit qu'il y avait une vingtaine de titres, ouais. On en avait le double.
Il y a un tome 2 bientôt, alors.
Le tome 2, il est presque déjà pensé.
Ouais. Hein, il est enregistré déjà. Et...
non, mais c'est ce qui est le plus complexe avec ces choix, c'est d'arriver à ce que ça soit homogène, à ce que ça. Voilà, et puis, mais ça laisse beaucoup de portes ouvertes pour la suite.
Quel est le morceau qui a le plus plu à votre femme, parce que vous en parlez dans les interviews en disant que c'est elle qui a été quand même un peu l'élément déclencheur.
C'est elle qui me rappelait tous les trois mois, elle me disait mais quand est-ce que tu vas faire ce disque de musique de film?
Parce qu'elle aime les musiques de film.
Oui, elle adore ça, et puis elle me disait mais arrête de réfléchir autant et lance-toi, quoi. Elle avait raison.
Et quel est son morceau, vous pensez?
C'est Out of Africa.
Ah bah alors justement, on va l'écouter, Out of Africa.
Ah, il y en a eu du Kleenex. Hein.
Ouais. Il y en a eu des embrassades aussi. Oui, absolument. John Barry. Alors là, on a entendu quelques titres. Il y a aussi des titres, des thèmes musicaux plus joyeux, plus légers. Daniel, je crois que toi, t'as une préférence.
Moi, beaucoup d'émotions. Avec le grand blanc avec une chaussure noire.
Allez. Ouais, ouais.
La cruauté de la vie qui a frappé cet homme-là, accompagné par votre violon, ça m'a bouleversé.
Et ce qui est formidable avec ces musiques, quand on entend la musique du Grand Blond, c'est que on a tous en mémoire des moments de notre enfance ou de notre adolescence heureux, en fait. Parce que c'est des films qu'on a regardés en famille, et ils repassent encore. C'est comme Les Bronzés. Enfin, c'est des films, voilà, qui font partie de notre.
Tous les films de Funès, hein, Vladimir Cosma, il a pratiquement fait la musique de tous les triomphes.
Absolument.
De Gérard Rouy avec De Funès.
De Funès, Gérard absolument. Rouy. Mais alors, Vladimir,
j'ai une requête.
Cosma, oui.
Pour le tome 2, Basile Poliédoris, Conan le Barbare.
Ah, alors là, voilà, tout de suite.
Il y aura peut-être un tome 3.
Ouais, on va.
Vous n'imaginez pas le nombre de suggestions que j'ai de tous mes potes qui m'appellent. T'as intérêt de mettre celui-là dans le prochain.
Ça doit être insupportable.
Que des menaces.
Et des potes de tous les âges, des potes de 80 ans qui me disent, il faut, mais t'as pas mis le Guépard, mais quel scandale. Ouais. Mais tu l'as pas vu en plus, mais c'est nul. Après, des potes de l'âge de. Des enfants de 20 ans qui me disent mais pourquoi t'as pas mis ça, et c'est il y a de quoi faire une dizaine de volumes.
Alors, finalement vous êtes fâché avec beaucoup de monde.
Il y a plein de morceaux, en effet. Alors la difficulté, on a parlé des autorisations, mais aussi autre difficulté, c'est que tous les morceaux ne sont pas forcément faits pour être joués par un violon, donc il y a dû avoir
un
travail d'adaptation.
Ce qu'on entend là, le Grand Blond, c'est Vladimir Cosma qui a la gentillesse de le transcrire pour moi pour le violon. Il se trouve que lui est violoniste, donc c'était formidable parce que je suis allé chez lui, on a travaillé ensemble. Et plus de la moitié les trois quarts des titres ont été transcrits par Cyril Laine et Daniel Capelletti, deux musiciens formidables. Et sans eux, oui, le disque n'aurait pas existé.
Par exemple, Le Parrain.
Le Parrain, il a été transcrit pour violon.
Ça me rappelle Nagui.
On l'embrasse.
Les matins, quand on arrive dans le bureau, qui est dans le noir, comme ça.
C'est ça. Fait ta conique.
Qu'on est obligé de se mettre à genoux. Après, je ne veux pas en parler.
Et ce qui est étonnant quand on écoute Le Parrain, c'est qu'on a la sensation que ça a été écrit initialement pour un violon.
Oui, c'est là où ils ont été très bons, les musiciens qui ont transcrit ça, Laine et Capelletti, parce que effectivement, l'idée c'est qu'on ne se dise pas « tiens, c'est un violon », mais que ça soit immédiatement adapté. Ouais. Bon, pour Le Parrain, c'est vrai que c'est quand même un orchestre symphonique à la base, et il fait ressortir le violon, donc c'est assez logique. Mais pour d'autres titres, c'était plus spécial.
Jean-Roger Navarro, vous êtes là ?
Oh !
Est-ce que vous savez pourquoi Cinéma, l'album de Renaud Capuçon,
sans
va être
transition.
Un succès ? Non, il n'y a plus de transition avec Jean-Roger.
Ah, vraiment, tu es abrupt aujourd'hui. Hein.
Je suis cash.
Ma parole, tu te prends pour Nagui ?
Non, pas du tout.
Bah, écoute-moi bien. Pendant que Moubarak Junior, il joue à la croisière Samus sur son yacht de 15 mètres de large.
Vous voulez dire son yacht ?
Un yacht. Comment tu dis que ça s'écrit ? Ça s'écrit YACHT. Et que je sache, Carbu, je te jure, ça se prononce yacht. Quand j'étais jeune, j'ai fait du catch.
Ouais.
Eh ben, ça, je faisais pas du côte. Et toi, quand tu regardes à la télé le foot, tu regardes les matchs, pas les mots. Bon.
Alors que. D'accord.
Bon, okay, je sais plus ce que je disais.
Je sais.
Je suis l'orthophoniste. Ah oui, alors profite, Morin. Profite parce que Nagui, il soit pas là pour poser des questions.
Ça va être très long, hein.
Oui, qu'il pose des questions, profite pour poser des questions qu'elles soient moins emberlificotées que les siennes.
Okay.
Bon, est-ce que vous avez aimé le cinéma?
Mais tu me prends pour un jambon ou quoi? Dans ma famille, on aime la belle musique de film. Et le violon aussi, vu la quantité d'enfants de putain que mon oncle y a expédié au violon. Bon, en plus, taisez-vous. En plus, dans l'album à Monsieur Capuçon, il y a des compositeurs qui ont écrit la musique de film ou que mon oncle il avait joué. Corrida pour un espion, par exemple, c'est Michel Legrand qui avait signé la musique. Rocco et ses frères, c'était Nino Rota. Georges Delru, il avait fait Les adieux les plus doux. Et Vladimir Kosma, qu'on a causé à l'instant, il a composé la musique d'un des chefs d'œuvre que mon oncle il a réalisé. Le faux cul. À propos de faux cul, t'en es un sacré, Daniel.
Pourquoi ?
Tous les jours, j'entends toutes les cagades que tu balances à Nagui, que t'arrêtes pas de lui pourrir son cœur, de lui niquer le beignet. Pourtant, même s'il est pas là, ben ouais, mais même s'il est pas là, tu fais tout pareil que lui. Quand JNB, notre rédac-chef, tout à l'heure, il t'a dit « Daniel, mon chéri, Renaud Capuçon est arrivé, il est dans la loge, va le chercher !» Alors tu lui as répondu « C'est qui, Capuçon ?» Capuçon, mon Daniel d'amour, un très très grand violoniste. Mais tu sais bien que je déteste le crin-crin, ça me fait saigner les tympans. Voilà, monsieur Capuçon, comment qu'elle se prépare la bande originale, même quand Nagui est loin, sur son yacht. Dans l'hypocrisie, la haine de la grande musique et la déformation systématique du nom de l'invité. Alors, heureusement, moi je vous admire, mais malgré que je sois un fan, j'ai un reproche à vous faire, monsieur Capuçon. Sur votre disque, vous n'avez pas joué une musique de film.
Eh ben voilà.
Quelle est sublime. L'indicatif de Navarro, signé Serge Perratonner.
Navarro, j'écoute.
Ah, ça, c'est presque aussi beau que la musique d'Alexandre Desplat. Bonne émission.
Merci, Jean-Roger Albert. À la boue.
Justement, Alexandre Desplat, il en est question dans cet album avec The Twilight Saga.
C'était ce qui avait de plus réussi dans le film.
Alors justement, la musique d'un film, ça peut transformer un film. Oui. Ça peut, c'est comme une sorte d'exhausteur de goût en fait. Quand la musique est magnifique, j'ai l'impression que le film gagne aussi en intensité.
Oui, il y a certains films, j'ai pas d'exemple précis.
Et inversement.
En tête, oui, certains films qui je pense, sont magnifiés par la musique. Si on prend Cinéma Paradiso, le film est sublime sans la musique déjà, mais on a l'impression que la musique le rend encore plus beau.
Ouais.
Voilà, et dans d'autres cas, on a l'impression que la musique peut sauver parfois le film. Où on est au contraire tellement attiré par la musique qu'on voit moins le film, et parfois c'est bien d'ailleurs parce que le film est peut-être moins bon, mais dans le meilleur des cas, c'est vrai que quand on prend Out of Africa, le film est splendide et la musique est splendide.
Ouais,
et
pourquoi avoir choisi justement The Twilight Saga? Parce que alors, là, on a parlé d'une génération aussi, hein,
oui,
d'un coup.
Alors, on a parlé, ce qui est drôle, c'est que justement les gamins de 20 ans en regardant la liste, il y a Twilight, et puis les autres, la moitié, ils connaissaient pas. C'est là où je me suis rendu compte que j'avais vraiment vieilli. Bref, ça c'était une parenthèse. On a parlé avec Alexandre Desplat. On était à Los Angeles, on a pris un café ensemble et je lui ai dit, écoute, c'est d'ailleurs grâce à lui, il ne le sait pas vraiment, mais c'est grâce à lui que les choses se sont vraiment mises en place. Parce que j'avais cette idée, j'avais plein d'idées précises sur des compositeurs, mais rien n'était vraiment fait. Mm-hmm. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu accepterais? D'abord, il a dit oui tout de suite. Et puis, c'est le fait de l'avoir rencontré, d'avoir parlé avec lui, qui a vraiment... Tout d'un coup, j'avais un compositeur de musique de film vivant face à moi, un grand compositeur. Et ce rêve, qui n'en était qu'un à ce moment-là, devenait réalité. Mmh. Et c'est vraiment sa rencontre, celle avec Cosmos, et qui m'a... Et donc, on a parlé avec Alexandre de plusieurs de ses films, et c'est lui qui a choisi celui-ci, hein, par rapport aux autres qu'il y avait autour, etc.
Oui, Albert.
Juste une chose, Alexandre Desplat et Solré, justement, au Bouffe du Nord, les 2 et 3 mars, bientôt, En silence, c'est un opéra de chambre qui est absolument magnifique. Et donc, les 2 et 3 mars au Bouffe du Nord.
Ah, absolument, il faut y aller. Et Solré est son inspiratrice. C'est une violoniste magnifique. Absolument.
Justement, et c'est sur le thème d'une violoniste qui ne peut plus jouer, hélas.
Alexandre Desplat, on a parlé de Michel Legrand, de Georges Delru pour le mépris de Vladimir Kosma. Il y a aussi Maurice Jarre parmi les compositeurs français qui sont mis à l'honneur avec le Cercle des poètes disparus. Ça aussi, c'est un film d'une génération.
Mon capitaine.
C'est vraiment notre génération, ça. Ouais. Hein, c'est les quarantenaires.
Thank you. Est-ce qu'il y a une école de compositeurs à la française ? Quand je vois cet album, même si c'est une sélection, et qu'il y a des compositeurs dans le monde entier.
Oui, mais quand on entend Jard, Delrue, quand on entend Desplat, on dit Desplat d'ailleurs.
Desplat. C'est ça, ouais.
Je pense qu'il y a une vraie, tradition. D'abord, il y a une tradition du compositeur de français, et ceux qui sont aussi spécialisés dans la musique de film, je pense qu'en tout cas, ils sont incroyables. Ils ont été reconnus par les Oscars, et dans le monde entier. Et
François de Roubaix, Duhamel aussi, grand compositeur. Il y a d'autres disques à venir.
Ils sont des grandes stars finalement à l'étranger.
Ah, complètement.
Oui.
Et d'ailleurs, il y a aussi de plus en plus de très très grands compositeurs de jeux vidéo. Et d'ailleurs avec des musiques qui n'ont rien à envier au cinéma, ça se développe de plus en plus. Et y a vraiment
ça, je connais moins, mais c'est vrai que c'est l'avenir aussi.
Ouais. Bah alors voilà, ça va vous faire, je sais pas combien d'albums à faire, il y a du boulot.
Il y a de la sieste à venir. Dans quelques instants, nous allons retrouver Guerre et Microville. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne sur un hommage qu'on n'a pas fait à quelqu'un. On l'a évoqué tout à l'heure, mais c'était pendant la victoire de la musique classique. Évidemment, Leïla qui chante un petit peu.
Apportez-moi mes filles.
C'est dégueulasse.
On est perdu, s'en fiche. Comment peut-on lancer?
Ah,
oui, comment lancer la séquence d'après?
C'est pas mal.
C'est chouette. Ouais. 8 ans de répétition quand même.
Dans mon ourlet, il est dissimulé. On est donc sauvé. Tu peux respirer. Ah oui, je peux souffler.
Ouais. J'ai l'alarme.
C'est une façon de tenter de rendre hommage à Michel Legrand, et je vous cache pas qu'une fois qu'on a passé ce moment, on est très heureux.
Je viens de recevoir un texto de Michel Legrand qui me dit plus jamais ça. C'est l'heure de la drôle d'humeur de Guérémy Crédville.
Alors, la semaine dernière, en rentrant de ma chronique, j'ai croisé deux personnes qui se disaient bonjour en parisien. Bon, ils s'insultaient à côté de leur voiture. Alors, devant cette altercation qui risquait de dégénérer, j'ai fait ce que n'importe quel être civilisé aurait fait à ma place. J'ai ralenti et j'ai regardé. Je me suis quand même dit, si quelqu'un intervient pour les séparer, j'interviens aussi. Du coup, on était pas mal à se regarder en se disant, s'il intervient, j'interviens. Quand il y a un conflit dans la rue, on est tous des casques bleus. On est là, avec plein de bonnes intentions, mais on sert à rien. Entre-temps, les deux autres se sont calmés. Oh putain, pile quand j'allais y aller. Bon, alors, ils sont remontés dans leur voiture en se balançant quand même quelques noms d'oiseaux. Faucon, sale merle, fils de buse, gros canard, je vais t'épervier, ouais, c'est ça, pète-moi l'hirondelle, grue cendrée, marouette de Bayon, locustelle tachetée. Ouais, bon, après c'était des noms d'oiseaux plus précis. Apparemment on avait affaire à des ornithologues motorisés. Alors moi j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai attendu que l'un des deux parte pour aller voir l'autre. Que s'est-il passé, lui dis-je. Je regarde souvent chasse et pêche, du coup je m'y connais un peu en volatile, me répond l'automobiliste. Mais non, avant, pourquoi vous êtes-vous écharpé, le reprends-je. Ah, ça c'est parce que il s'est inséré dans ma file sans mettre son clignotant. Et c'est tout. S'il avait dit il s'est introduit dans ma fille sans mettre son clignotant.
Ah, bravo.
Bah oui, non, mais là, j'aurais pu comprendre sa colère.
Ah, bravo.
Ah, bravo. Oui, j'aurais pas pu dire non plus. Mais, oui, bon. Non, mais ça se fait pas. Mais là, bon, deux adultes ont failli se mettre sur la couenne parce que l'un des deux avait coupé la file à l'autre. C'est quand même fou. C'est fou comme on devient con quand on est sur quatre roues. C'est vrai, hein. Les queues de poisson font disjoncter les cervelles de moineaux. Ah, bah, sur la route, il y a que le bison qui est futé. Ouais, voilà, vous aurez remarqué, je fais beaucoup dans la référence animalière aujourd'hui, c'est mon petit côté Jean de La Fontaine. Chez moi, j'ai aussi des perruques poudrées, des chemisiers à jabot, des candélabres, ça c'est mon petit côté Jean de La Fistinière. Bonjour les enfants,
je connais.
C'est les vacances. En parlant d'espace commun, il y a un lieu commun sur la route, c'est que chacun est sûr et certain de conduire mieux que l'autre. Et on n'est pas sur la route, on est sur sa route. Il y a d'ailleurs une hiérarchisation, il y a une hiérarchisation des connards sur la route. Hein. Au sommet des connards, il y a les animaux. Alors eux, ils s'en branlent. Il suffit qu'un panneau les annonce, ils peuvent traverser où ils veulent, quand ils veulent, pendant 10 kilomètres. Oh, j'en ai rien à foutre, je suis une biche. Bon, après...
Ça parle comme ça, une biche.
Une biche, très souvent. Ah ouais, je monte. Ça. Après... Ma biche. Bon, après, la physique se charge de les ramener sur terre. Il n'y a qu'à voir le nombre de hérissons ou de Renault écrasés sur le bord des routes pour se rappeler qu'un pare-choc de Renault sera toujours plus fort qu'un museau. Et quand je dis Renault, c'est la voiture.
J'avais compris.
Ouais. Bon, il y a aussi des chaussures sur le bord de la route, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi. Ensuite, t'as les piétons. Eux, pareil, ils traversent où ils veulent, sauf que eux, ils ont des passages exprès à prendre. Mais c'est toujours un peu trop loin de là où ils veulent traverser. Les passages piétons, ils s'en tapent, c'est pas des Allemands. Il y en a même qui marchent doucement devant ta bagnole alors que c'est vert. Pour toi. Alors là, c'est le moment précis où tu te dis, oh, il ressemble un peu à Facochère, je pourrais l'écraser. Bon. Ensuite, il y a les cyclistes. Alors eux, les priorités, c'est pas leur priorité. Ils ont tous les droits parce qu'ils sont dynamiques et non polluants, contrairement à toi dans ta voiture. Hein. Et enfin, t'as les trottinettes électriques qui méritent la chaise du même nom. Alors, faut savoir que dans les grandes villes, à cause des embouteillages... Tous les connards que je viens de citer, donc animaux, piétons, trottinettes et vélos, vont tous plus vite que toi dans ta voiture. Et je sais pas vous, mais moi je pense que j'ai lâché toutes les insultes possibles et imaginables en voiture. J'ai déjà réussi à être raciste, homophobe et misogyne dans la même phrase. Une caisse qui pile devant moi, à côté Éric Zemmour, il est tolérant. Heureusement, bientôt avec les voitures autonomes, il n'y aura plus d'incivilité. Hein, c'est les bagnoles qui vont s'engueuler. Et on assistera à des... petite pute, fils de pute. Ce sera des coups de klaxon très
tous
très
les talents, tu sais faire la voiture aussi.
Non mais ça évitera les bagarres, les mais ça a quand même... Merci.
Fort, le gars.
Ça évitera les bagarres, mais ça a quand même beaucoup moins de charme que Faucon, Marouette de Bayon ou Locustel Tacheté. Allez, à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que la route, c'est comme les MST, ça se partage.
Bravo. Bravo. La ville originale. Sur France Inter.
Jérémy Crenville qui va en profiter cette semaine pour aller s'acheter une langue neuve.
J'ai une élocution de...
Faire un petit stage chez...
Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi dans la bande originale avec comme invité l'excellent Renaud Capuçon et son excellentissime album Cinéma. Michel Legrand, quand ça balance.
Quand ça balance, on est deux, le jazz et moi. Je crois même qu'on est trois. La contrebasse, la batterie, le jazz et moi, ça fait déjà plus que ça. Le vibraphone, les trombones, le jazz et moi, quand on s'est donné le la, il ne manque plus que les trompettes et puis voilà, ça me cogne dans les doigts. Quand ça balance, alors là, je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là, alors. Je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Dès que le tempo est là,
quand ça balance, quand l'orchestre est avec lui, alors là ça fait du bruit. Quand ça balance, le plafond dans l'éclat, dans un grand tonnerre de bois, ça dégringole du sommet des cinquième ciel. Si tout le jazz est là, et ça rigole dans son cœur qui prend des ailes, et ça lui colle dans les doigts. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi. Quand ça balance, alors là je suis chez moi. C'est mon passeport, mon drapeau, ma Bible à moi.
Michel Legrand sur France Inter, quand ça balance, un compositeur aussi qui savait donner de la voix. Et d'ailleurs, en parlant de voix, Renaud Capuçon, dans cet album Cinéma, il y a la présence d'une voix féminine sur un morceau qui est très émouvant.
C'est Leïla.
Oui, le matin. Nolwenn Leroy, Renaud Capuçon, comment vous l'avez entraîné dans cette aventure?
Par un coup de fil. En fait, je connais Nolwenn depuis quelques années.
Oh, ça va.
Je sais qu'elle est... elle joue du violon magnifiquement. Elle est violoniste, donc il y avait plusieurs cordes à son arc, mais sans mauvais jeu de mots. Mais c'est surtout sa voix, bien sûr. Elle a cette voix. Quand on a pensé à qui pourrait chanter cette chanson-là, on a pensé à elle tout de suite. J'avais aussi parlé avec Jean-Jacques Goldman. Je lui avais demandé un peu conseil. Et puis donc j'ai appelé Nolwenn et elle a dit mais oui, instantanément. C'était génial. Et on s'est retrouvé à Bruxelles avec l'orchestre. C'était assez impressionnant pour elle, je pense, de se retrouver tout d'un coup face à 100 musiciens pour enregistrer cette chanson. Et c'était un bonheur total pour moi parce que c'est. Il faut savoir que dans le classique, on a rarement ce genre de coopération. Et tout ce disque, on l'a enregistré avec l'orchestre Stéphane Onev, avec comme des enfants en fait qui découvrent. C'est de la musique qu'on ne jouait pas, qu'on n'avait jamais joué. Et donc on avait les images des films qui défilaient en même temps dans nos têtes. Enfin, on était vraiment comme c'était 5 jours de bonheur enfantin dans le plus noble sens du terme.
Et c'est vous qui avez choisi l'orchestre parce que c'est un ami. Comment
oui, Stéphane Onev, c'est un pote du conservatoire d'il y a 20 ans. C'est un grand chef qui dirige tous les grands orchestres en Amérique, qui est un fan de musique de film, très très ami de John Williams. Il dirige chaque année au Boston Symphony ses musiques. Et donc, pareil, quand je l'ai appelé, c'était organique. Mm-hmm. On ne peut pas faire un disque comme ça en mettant des noms sur un papier. Il faut que les choses soient... Organique, c'est le mot. Je pense qu'il faut que ça ait un sens. Et là, on était tous réunis pour la même...
Vous savez, on peut organiser des choses entre gens qui se détestent. Regardez autour de cette table. On l'a quand même réussi. À présent, on va revenir en musique sur les dates importantes qui ont émaillé votre carrière. On commence, vous l'évoquiez il y a une minute, par Jean-Jacques Goldman, 1980.
Jean-Jacques Goldman. Pourquoi Jean-Jacques Goldman pour illustrer cette année 80 qui correspond à vos 4 ans, Renaud Capuçon?
Parce que ma sœur écoutait Goldman. Ma sœur écoutait Goldman, donc elle a 5 ans de plus que moi. Alors c'est peut-être à quelques années près, ça devait être peut-être 83, 84. Mais on écoutait ça dans la voiture et ensuite moi je l'ai écouté aussi. Et puis le jour où je l'ai rencontré en vrai, c'était dans un hôtel à Aix-en-Provence, par hasard. Je vois passer quelqu'un avec une casquette comme ça et je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Et puis suite à ça, Jean-Jacques m'a demandé de participer aux Enfoirés. Ouais. Et c'est un des types les plus, je sais pas comment dire, un des types bien que j'ai rencontré dans ma vie. Voilà, il en fait partie.
Il fait l'unanimité de ce point de vue-là.
C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est un sage dans le noble sens du terme. Et puis c'est une voix incroyable. C'est un sens harmonique. Quand on entend ces quelques notes d'Envole-moi, on a l'impression que ça aurait pu être écrit hier. C'est absolument pas démodé. Ouais. Voilà, c'est un grand, grand chanteur, grand musicien.
Et 4 ans, c'est la découverte du violon pour vous. Vous avez évoqué votre sœur, on connaît aussi votre frère. Est-ce que votre sœur est instrumentiste aussi?
Ma sœur, Aude, a joué du piano jusqu'à ses 18 ans, 19 ans. Ensuite, elle a arrêté pour devenir orthophoniste. Donc si jamais vous voulez son numéro de téléphone, je vais vous le donner. Pas son numéro de téléphone quand même, mais je vais vous donner son adresse email.
Vous savez, Renaud, ça va au-delà de l'orthophonie pour ce garçon. Ce serait plus un exorciste.
Donc elle est devenue orthophoniste. Et ses enfants sont musiciens. Son fils joue du violoncelle. Sa fille est au conservatoire de Paris en danse. Donc on a toute une petite...
À quand l'orchestre Capuçon?
Non, ça c'est pas prévu, mais c'est très sympa.
Capuçon.
Voilà, il y a toute une petite dynastie maintenant familiale dans la musique, la danse, c'est très sympa.
C'est souvent comme ça, d'ailleurs, dans le milieu de la musique classique, il y a des grandes familles qui se constituent comme ça. Au Festival de Pâques que vous avez lancé, que vous organisez, dont vous faites
à Aix-en-Provence,
vous donnez aussi la place aux frères et sœurs sur scène.
On a fait ça plusieurs fois, ouais. Oui, avec Dominique Buzet qui organise ce festival avec moi-même. On a demandé à plusieurs familles, donc la famille Moreau, Lamarca, Chilem, mon frère et moi, et on s'est tous réunis sur scène, donc ça faisait, on était une dizaine de frères et sœurs, et c'est très sympa, parce que pour le public, je pense, de voir que des frères et sœurs peuvent jouer comme ça ensemble.
Bah justement, en parlant de ça, vous, Renaud, et Gauthier, votre frère, à Aix-en-Provence. Thank you. Alors, hasard, c'est Camille Saint-Saëns, et il se pourrait bien que ce soit lui qui ait composé la première musique originale d'un film.
Absolument.
Voilà.
C'est lui qui a composé, qui a...
L'assassinat du duc de Guise en 1913. Voilà.
Exactement. Et je reste persuadé que si Mozart, Schubert, Beethoven avaient connu le cinéma, ils auraient, enfin, je suis persuadé, j'en sais rien, mais je pense qu'ils auraient eu la curiosité ou l'envie, comme Saint-Saëns, d'écrire pour le cinéma.
On passe à 1993, et là, pour illustrer musicalement de l'allégresse, de la détente, de la jovialité.
Ne me quitte pas, il faut oublier.
Ne
tout
me quitte pas, Jacques Brel.
Je vais s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps.
C'est en live, ça.
Des malentendus et
à Rotterdam.
Temps perdu.
Unplugged.
À savoir.
93, c'est la sortie du conservatoire. C'est quoi heures. C'est un cri d'amour au conservatoire.
Non, 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 perdu non, non, dans non la, mais dans la très franchement, j'ai toujours été décalé. Et j'écoutais ça dans cette époque-là. J'écoutais Brel, Piaf. J'étais complètement décalé avec mon âge, quoi. J'avais 93, j'avais 18 ans, 17 ans. Et ouais, c'était, j'écoutais ça. J'étais dans une espèce de trip archi-romantique. Ouais. Mais dans le bon sens du terme, hein, je me scarifiais pas. Mais j'étais comme ça, très romantique, un peu nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Et surtout, je suis toujours fasciné par la voix de Brel et par ce destin incroyable.
Cette sortie de conservatoire se termine plutôt bien. C'est un premier prix de violon, un autre prix de musique de chambre, je crois savoir.
C'est le début, c'est la fin du conservatoire, mais c'est le début de la vie. Enfin, c'est le tout début.
C'est le début des récompenses, d'ailleurs, vous concernant, parce que vous n'avez cessé d'en avoir au fur et à mesure. Quel est votre rapport à la compétition? On parle beaucoup du monde classique aussi comme un monde de compétition, puisqu'on fait de vous des, et c'est vrai, des sportifs de haut niveau, des athlètes. Vous avez une hygiène de vie, de travail qui est assez spectaculaire. Est-ce que ça, c'est une condition sine qua non pour réussir dans la musique classique?
J'aime pas parler de compétition parce que, je sais pas, je trouve que c'est très complexe de mettre l'art, puisque c'est ce qu'on fait quand même, on joue de la musique qui a été écrite par des génies, en comparaison avec du sport. Ce qui est qui peut être comparé avec le sport, c'est la préparation physique, la discipline, c'est la discipline, etc. Ça, on est bien d'accord. Ensuite, on est dans, c'est vrai que l'entraînement, c'est extrêmement, c'est compliqué parce que si je réponds oui, j'ai l'impression de dire une ânerie. Et si je réponds non, j'ai l'impression de dire une ânerie aussi.
Ouais, je comprends.
Lancez-vous.
Oui, oui.
Non, mais c'est très
sieste,
complexe.
Une sieste et une sieste, on
non,
décide.
Non, vous savez, dire des âneries autour de cette table, ça n'arrête personne.
Puis la différence, c'est qu'à 33 ans, un musicien... Souvent, il ne fait que commencer.
Et moi, j'ai 43. Et moi, j'ai 43.
En fait, ça dépend de l'instrument.
Non, je pense que pour être plus sérieux, il y a effectivement une notion extrêmement contraignante quant au travail, quand on joue du violon surtout. Entre l'âge de 8 ans et l'âge de 20 ans, j'ai travaillé des heures et des heures, mais parce que je le voulais.
Oui.
Et j'ai l'impression que depuis que j'ai 25 ans, donc ça fait depuis à peu près 15 ans, bien sûr que la vie est une vie de travail, de voyage, etc. Mais c'est une vie tellement extraordinaire que j'ai du mal à la mettre sur le domaine de la compétition. Et personnellement, mes collègues violonistes, que pour la plupart j'admire, je ne me sens pas du tout en compétition avec eux. Je vais les écouter. Ils viennent pas très souvent m'entendre, mais en tout cas, je vais souvent les. Non, mais j'ai un rapport très sain avec les autres violonistes de ma génération. Parce que vous voyez toujours des gens qui parlent des. Quand on donne des exemples des gens qui sont morts, vous savez, c'est plus facile de parler des gens qui sont morts. Et moi, j'ai aucun problème à parler de violonistes de ma génération, d'autres pays, des Français, des étrangers. Donc, ce sens de la compétition, je l'ai pas. Par
c'est
contre,
contre soi-même, quoi.
Voilà, se dépasser soi-même. Voilà, j'ai fait très très long pour répondre à un truc complètement banal.
Non, pas du tout. Pas du tout.
Léla, tu nous chantes un chanteur mort?
Non.
D'accord. 2013. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand. Vous fondez le Festival d'Aix-en-Provence 2013.
Oui, alors je ne fonde pas un festival de jazz avec l'aide du CIC et avec Dominique Buzet qui est le directeur des théâtres à Aix-en-Provence. On fonde ce festival qui a maintenant 7 ans et c'est une grande, grande joie de pouvoir accueillir une vingtaine de concerts. Ce qu'on entend, c'est Stacey Kent.
Oui.
C'est marrant parce que c'est, si on prend les musiques, ça va un peu à l'envers. Normalement, on écoute Brel quand on a 80 ans, on écoute Stacey Kent quand on a 18 ans. Moi, c'est un peu l'inverse, mais j'ai pas 80 ans. Mais oui, Stacey Kent, c'est la musique que j'écoute avec plein d'autres, avec Mélodie Gardot, avec d'autres chanteuses comme ça, ou du jazz, que j'écoute quand j'écoute quelque chose, en fait. Mm-hmm. Parce que j'écoute très peu de musique, à part du Bach ou du silence. J'en fais moi-même tellement. Par contre, j'adore aller écouter mes collègues que j'invite au Festival d'Aix-en-Provence et d'autres. Mais c'est vrai que la musique à la maison n'est pas si fréquente. Et quand il y en a, c'est du jazz.
Qu'est-ce que ça vous a apporté justement de créer, de fonder ce festival à Aix-en-Provence? Parce que c'est une charge de travail supplémentaire dans un emploi du temps déjà complet.
Oui, alors il y a plusieurs choses. D'abord, c'est la joie de pouvoir faire partager des goûts musicaux à un public, la joie de voir des amis musiciens que je croise pas forcément, parce que on se croise toujours sur les programmes, mais pas forcément en vrai. Et puis, au-delà de ça, c'est une gymnastique que j'adore faire, c'est une gymnastique de programmation. Mm-hmm. J'ai toujours aimé programmer c'est un peu comme un cuisinier qui aime mettre des plats ensemble, aime composer un menu. J'ai pas cette part-là quand je joue moi-même sur scène. Bien sûr, j'interprète Brahms, Beethoven, Schubert. Mais là, c'est imaginer des gens qui jouent avec qui joue quoi, comment, et qu'est-ce qui peut plaire au public, qu'est-ce qui peut fonctionner, qu'est-ce qui peut faire découvrir un jeune musicien, faire découvrir un musicien étranger que la France ne connaît pas. Voilà. Et ça, c'est un bonheur. Et puis, encore une fois, une mécanique intellectuelle qui me plaît beaucoup et dont j'ai besoin.
Et nous, on va vous faire découvrir un journaliste que personne ne connaît. C'est un tout jeune, il commence, c'est Laurent Delmas. Bonjour Laurent.
Merci.
On vous retrouve tous les samedis de 10h à 11h sur France Inter avec Christine Masson dans On aura tout vu, et puis aussi dans Ciné qui chante tous les étés sur France Inter, parce que c'est bien l'été aussi d'avoir votre voix, Laurent Delmas. Vous êtes un grand spécialiste de musique, on a évoqué tout à l'heure Camille Saint-Saëns, les premières BO de films, ça remonte à quand ?
Ça remonte avant la naissance du cinéma parlant, c'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire que effectivement le cinéma est né muet mais musical, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une salle de projection de cinéma sans à minima un piano qui accompagnait comme ça en improvisation, et puis il y a eu très très vite aussi des immenses salles de spectacle, qui étaient des très grandes salles de cinéma, où il y avait, par exemple, des orgues, où il y avait la possibilité d'orchestres symphoniques, qui jouaient des partitions, effectivement, qui pouvaient être écrites par des grands musiciens, ou plus improvisés. Mais c'est ça la beauté, en quelque sorte, de l'histoire de la musique au cinéma, c'est qu'on pourrait dire que les choses ne commencent que dans les années 30, mais pas du tout, elles ont commencé bien avant. Alors c'est vrai que souvent, les partitions sont perdues, on adorerait pouvoir entendre ce que le pianiste parfaitement anonyme a joué pendant les 10 premiers petits films des Frères Lumière, avec l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, des choses comme ça. On se dit, ça serait extraordinaire d'avoir ce son-là. Bon, ça c'est perdu, les images elles sont là, mais le son, on ne l'a plus. Alors, heureusement, le parlant est né, et depuis, effectivement, l'histoire du cinéma, elle se confond aussi avec une histoire de la musique de cinéma, et qui est, on a entendu quelques partitions, il y en a des centaines d'aussi belles.
Oui, d'ailleurs, il y a un regain d'intérêt pour tout ce qui est ciné-concert, où on joue de la musique comme ça, en live, dans une salle, avec des films plutôt muets. J'ai vu L'Aurore de Murnau, par exemple, récemment, c'était quand même assez fou d'imaginer qu'on avait un petit orchestre sur scène qui accompagnait les images.
On a vu un Franck Borzage récemment, ici même, à Radio France. Ça donne aussi une possibilité à des musiciens contemporains d'écrire des partitions originales pour des films dits anciens, en noir et blanc, et qui, du coup, leur redonnent une sorte de seconde vie.
Alors Laurent, c'est quoi une bonne BO ?
Ah, moi j'en sais strictement rien. Je sais les
BO que j'aime. Vous allez faire un effort.
Je n'aurais même pas besoin d'une chaise pour vous répondre. Je n'en sais strictement rien. C'est la BO que j'aime. Ce sont les BO que j'aime. Non, mais ça peut être des choses extrêmement différentes.
C'est-à-dire comment la musique peut magnifier un film.
Exactement.
Et comment un film à peu près standard peut devenir un grand film grâce à une musique.
Oui, on va dire aussi combien une musique
peut
plomber un film.
Oui, voilà.
Et ça, il y en a quand même beaucoup. Moi, je suis assez frappé par le tapis musical qu'on entend parfois dans un film. On se dit, mais arrêtez la musique, quoi. Il faut l'arrêter parce qu'on entend même plus les dialogues, tellement la musique est présente dans une... En plus, c'est un tapis, je sais pas ce qu'on pensera en occupation, mais c'est un tapis de piètre qualité, de très très mauvaise qualité. Donc on se dit, préférons de temps en temps des interventions musicales et pas ce tapis infâme et informe qu'on entend trop souvent dans le cinéma américain, mais pas seulement. Il arrive au cinéma français de faire ce genre de choses. Non, la meilleure BO, je sais pas, c'est la BO que j'ai que je continue à avoir dans la tête aussi, certainement, bien des années plus tard. Moi, il m'arrive de fredonner régulièrement une valse que j'adorerais voir dans le prochain album de Renaud Capuçon, qui a été écrite par Stéphane Grappelli pour Les Valseuses de Bertrand Blier, qui est un morceau génial, qui est en plus écrit par un violoniste pour lui-même, et qui est un morceau, moi, qui me met dans un état de joie, parce qu'en même temps, c'est comme le film, c'est à la fois très joyeux, très paillard et très très mélancolique. Et ça, Grappelli a su le faire. Donc les bonnes BO, c'est ça, c'est celles qui vont vivre certainement leur vie à côté, tout en étant parfaitement emblématiques du film dont elles le sont. L'extrait.
Alors, il y a des couples célèbres, compositeurs, oui, réalisateurs qui ont émaillé l'histoire du cinéma. Vous pensez à quel couple, par exemple, Laurent Delmas
Pierre et Marie Curie, là, donc à ma gauche. Bon, donc on va relancer le niveau. Donc, ouais, on va dire Jacques Demy et Michel Legrand, ouais, par exemple. Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock. Francis Lay et Claude Lelouch. Il y en a effectivement beaucoup. C'est vrai que... Pardon ?
Léone.
Sergio Leone, bien entendu, et Morricone. Il y en a beaucoup, Nino Rota et Fellini, ouais, qu'on a célébré d'ailleurs ce week-end même ici à Radio France, avec de très très beaux concerts. Donc ça prouve d'ailleurs qu'une fois de plus, la musique de film, c'est pas juste enserré dans un film, ça peut vivre dans un studio et devant des gens et devant un public nombreux. Voilà, donc les couples, c'est effectivement assez important, parce que ça montre bien que c'est pas juste une petite présence ponctuelle comme ça peut se faire sur la durée. Quand on voit les collaborations de Rota et Fellini, on sent une sorte de couple. Et puis ce qu'on fait Demy et Legrand, qui ont inventé un genre, c'est-à-dire qu'ensemble, ils ont dit un jour, voilà, on va faire une comédie musicale, mais ça va pas être des petits morceaux musicaux mis bout à bout, de loin en loin, avec des dialogues autour, comme font les Américains. On va prendre le début du film jusqu'à la fin du film, et on va chanter. Bon, ça, ce genre de choses, c'est né avec Demy et Legrand, né dans leur esprit, et c'est une création sublime, quoi.
Alors, est-ce que musique est forcément associée à cinéma ? J'entends par là, est-ce que tous les réalisateurs sont partisans de mettre de la musique dans leurs films ? J'ai un souvenir de Xavier Beauvois dans Le Petit Lieutenant avec Nathalie Baye, qui disait « Je vais pas te mettre de la musique parce que dans la vie, il n'y a pas d'orchestre qui te suit, donc je vois pas pourquoi je te mettrais la musique. »
C'est une jolie formule. Il a aussi fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il a demandé, par exemple, une très très belle partition à Michel Legrand pour son avant-dernier film, si mes souvenirs sont bons. Bon, comme quoi, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Mais en même temps, ça peut être un choix. Jean-Pierre Denis pour Les Blessures Assassines, le magnifique film sur l'abominable fait divers des sœurs Papin, il y avait pas de musique. C'est très étrange d'ailleurs, parce que moi, je suis allé voir le film sans le savoir, ça. Et je ne m'en suis aperçu qu'à la fin du film. C'est-à-dire, à la fin du film, je me suis dit, tiens, mais au fait, parce que le générique est aussi sans musique, il n'y a pas de musique. C'est assez étrange, effectivement, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Il y a quelques films, il y a quelques autres films dans l'histoire du cinéma, mais c'est très rare. Est-ce qu'il y a une injonction musicale ? Moi, je crois pas. Je crois qu'il y a souvent, quand même, la nécessité, effectivement, de faire passer par la musique peut-être un petit pas de côté, peut-être une autre émotion, peut-être quelque chose qui vient en appui, en apport, mais en même temps, on peut se dire, oui, c'est pas obligatoire d'avoir de la musique. En tous les cas, ce qui n'est pas obligatoire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'en avoir tout le temps pendant le film.
En deux mots, Laurent Delmas, un compositeur actuel à suivre. On disait que finalement, on ne les célébrait pas tant que ça en France. Vous pensez à qui, un compositeur ? Pas nécessairement français, d'ailleurs.
Oui, on les célèbre pas, alors que, juste un petit rappel, quand même, il y a trois auteurs d'un film. Il y a son réalisateur, son scénariste et son musicien. Réglementairement parlant, juridiquement parlant, il est l'auteur, il est le co-auteur du film, donc c'est très important. Je crois qu'il faut dire qu'Alexandre Desplat est quelqu'un d'extrêmement intéressant à suivre en ce moment, parce qu'il fait une carrière à la fois française et internationale. C'est quelqu'un qui s'affirme. Moi, juste, je voudrais dire le petit coup de cœur que j'ai eu pour le César de la meilleure musique qui a été donné très très récemment, pour les deux auteurs, et pardon, je n'ai pas plus leur nom en tête, mais qui ont fait la BO du film Guy d'Alex Lutz, qui est un petit bijou de création musicale, parce qu'ils ont créé 15 chansons ringardes, ou à peu près ringardes, et c'est extrêmement fort, ça tient très bien la route. Moi, j'adore ça. Merci.
Et tu chantes, je chante, da-du-di-du-di-da, et mon amour reste à toi.
Merci Laurent Delmas d'être venu dans cette émission.
Merci à vous.
Renaud Capuçon, ça vous inspire cette musique là de Guy par exemple ? Vous pensez que vous pourriez la reprendre ?
C'est juste pour vous alors.
Ah, juste pour nous.
Il est temps d'accueillir Tanguy Pastureau. Bonjour Tanguy.
Bonjour Lila.
Ah, bonjour Daniel.
Comment
bonjour,
ça Tanguy. Va ?
Mais ça va et vous ?
Ouais, plutôt pas mal. Apparemment, la consommation de viande repart à la hausse en France.
Oui, c'est super. La filière élevage est en train de repartir. Et long dans l'os, les véganes et tous les bobos qui nous culpabilisent pour rien. Donc, c'est-à-dire moi. Hein, maintenant, 9 mois sur 12, on peut faire des barbecues. C'est pas pour se mettre au tofu et se taper la vie du Dalai Lama. C'est le retour autour de l'entrecôte et de la sauce béarnaise. On est là pour kiffer. Vive la viande.
Ouais. On est là pour kiffer jusqu'à midi et demi avec comme invité Renaud Capuçon et son excellent disque cinéma.
C'est le retour de la bande originale avec Albert Agou.
Bonjour.
Rémi Crédville.
Bonjour.
Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Nadie est toujours off, mais bonjour. Dans quelques minutes, Tanguy Pastureau pour maltraiter nos fonds. Et bien sûr, Leïla, grande chanteuse, Kadour, ouais. Nadie.
Bonjour à tous. Et notre invité est toujours Renaud Capuçon.
Bravo. Bravo. Bravo.
Cinéma, cinéma, ce très bel album de Renaud Capuçon avec une vingtaine de grands thèmes musicaux composés pour le cinéma, pour des grands films, des films qui ont marqué votre vie de cinéphile, qui ont plu aussi, à l'orchestre. Est-ce que vous avez discuté un petit peu aussi pour
C'est compliqué de parler avec les 100 personnes de l'orchestre. On aurait eu 300 titres à proposer. Mais avec le chef,
avec
bien
le
sûr.
Chef.
On a fait le track listing vraiment avec Stéphane Deneuve ensemble.
On parle beaucoup de musique classique avec vous et surtout de votre volonté de démocratiser la musique classique. C'est vraiment, je trouve, un thème fort que vous reprenez souvent. Est-ce que vous pensez aussi qu'avec un album comme celui-ci, on peut attirer des gens à la musique classique ?
Oui, alors d'abord, je pense que démocratiser, la musique classique, elle n'en a pas besoin. La musique classique, elle devrait justement ne pas être démocratisable, elle devrait être ouverte à tout le monde tout le temps. On devrait, mais ça passe par cette espèce d'effort de notre génération. J'ai l'impression que la génération d'avant a trop mis la musique classique comme dans une sorte de chose un peu dans un écrin, ouais. Qui n'est pas accessible à tous. La musique classique, elle est pour tout le monde. Et je pense que la musique de film, c'est de la musique classique. Et que, effectivement, si ce disque est une porte d'entrée pour certains qui n'osent pas aller vers Ravel, Brahms et Schubert, formidable. Mais ils n'écouteront dans ce disque que de la musique classique, finalement. Qui est
et justement, par exemple, La vie est belle. Voilà, Nicolas Piovani, mais on pouvait encore entendre sur cet album Yenti de Michel Legrand.
On parlait de la musique de film comme bonne introduction à la musique classique tout court. Lui, c'est une bonne introduction à l'humour. C'est Guérémy, pardon, pas Guérémy du tout. C'est Tanguy Pastureau. Guérémy Pastureau. Tanguy, désolé d'être aussi direct, d'être aussi brutal avec vous, mais je vous le dis comme ça, les yeux dans les yeux. Tanguy, vous ne servez à rien.
Non, Daniel, vous avez raison. J'ai moins d'utilité qu'un bécherel à l'Institut National du Football de Clairefontaine.
Oh.
Si demain je quitte France Inter, personne n'en aura rien à faire à part 2-3 auditeurs qui pleureront à peine une minute avant de déclarer d'un ton enjoué « Allez, c'est pas tout ça, il est 12h11, je m'en vais me réchauffer la blanquette d'hier ». Pourquoi, me direz-vous, est-ce que je me dénigre ainsi ? D'autant que vous me trouvez peut-être super et sexy, si j'en juge la façon, Daniel, dont quand je parle, vos poils de barbe se jamais vous n'avez autant ressemblé à un oursin. Eh bien, parce que tous les messages écolos, sociétaux que je fais passer dans mes chroniques, que je pensais être suivi par une foule en transe, je me suis pris pour Raël, tombe à côté. Le peuple a su instinctivement que je n'étais pas un modèle à suivre. Sans doute mon physique, le même que celui d'un élu centriste du Loir-et-Cher, ne pousse-t-il pas les gens à se dire « purée, ce mec, je vendrais ma mère pour lui », mais aussi des trucs de valeur comme mon iPad. Je m'explique. Régulièrement, je parle ici de la planète, cet astre malheureux qui aurait pu être super, mais si à notre place, il y avait eu que des fourmiliers. Hein, je précise que ce point de vue n'est pas partagé par les fourmis qui nous écoutent. Il y a 8 jours, je m'affolais en disant qu'avoir 24 degrés en février à Béziers était un des 7 signes de l'apocalypse. Les 6 autres étant les acteurs du film, qu'est-ce qu'on a encore fait ? Oh bon Dieu ! J'avais mis, lors de cette chronique, mes tripes sur la table. Je dis ça plutôt que mes testicules parce que 1, c'est pas élégant, 2, c'est machiste, 3, pour peu que la table soit un peu haute, c'est épuisant de tenter de mettre ses testicules dessus. D'autant qu'un petit napperon, c'est plus joli. Hein, pour pour faire la différence entre les testicules et le napperon, c'est simple. Les testicules, c'est ce qui n'a pas été fabriqué par votre grand-mère. Ou alors, c'est que vous avez une famille réellement dysfonctionnelle. Je m'étais donc engagé lors de cette chronique. Et 2 heures après, dans la rue, que vois-je? Comme n'a jamais dit de sa vie Ray Charles, parce qu'il était anglophone. Des gens en terrasse, en train de kiffer. La face au soleil, rouge comme des culs de babouin quand ils se les ont grattés contre le rocher du zoo de Vincennes. J'ai réalisé qu'il n'y avait que moi qui était contre le réchauffement. Les autres adorent. Ils sont en t-shirt à Paris en février, mais se disent pas zut. On a fait Adam Nature, ce qui est dit de Préto, a fait au concept de joie de vivre. On l'a annihilé. Là, depuis 8 jours, vous mettez la télé. Hein, sur la une, il y a Evelyne Delia tout sourire qui vous dit formidable week-end en perspective du côté de Mâcon. Soleil 21 degrés, bip bip. Vous passez sur la chaîne météo, les types sont 12 en train de twerker en slip autour d'une piscine gonflable. Personne n'en a rien à carrer. Greta Thunberg, la Suédoise prépubère en grève pour le climat. Elle, c'est Philippe Martinez de la CGT, si on l'avait passé à la débroussailleuse. Déboule à Paris la semaine dernière, elle voit quoi? 200 jeunes qui manifestent avec elle et 70 000 à côté qui roulent des spliffs en écoutant Aya Nakamura au soleil sans se poser de questions.
Tanguy, vous parlez aussi très souvent du bien-être animal.
Mais oui, il est là en disant que manger des animaux est injuste. Est-ce qu'eux nous mangent? Non, puisqu'ils savent la manière dont on est nourri. À la naissance, on avale du lait en poudre, enfant des savanes transgéniques, ado des kebabs de viande avariés, adulte des fruits de mer au mercure et senior les smoules pas fraîches de l'épate de Nancy. Donc notre viande, ils n'en veulent pas. Nous, moi, on est 15 survivants à l'issue d'un crash d'avion dans les Alpes. Même au bout de 3 mois, je bouffe les sièges plutôt que les gens. Donc à l'antenne, je dis souvent mangeons moins de viande, blablabla. Résultat, en 2018, le chiffre vient de tomber, la consommation de viande a augmenté de 2,2% en France. Forcément, la seule star végane, c'est Émeric Caron. Les gens se disent, si j'arrête le bœuf, je vais lui ressembler. Or, le responsable de son allure, ce sont pas les carottes, c'est Camille Alban. Donc, malgré ce que moi et d'autres disent sur le climat, la viande, tout ça, bah, on est 4 en tout face à 67 millions de gens qui font cuire des merguez au soleil avant de hurler en cœur Édouard Philippe, si tu savais, ton bonus écologique pour acheter une voiture hybride, on se le met. Ce qui est un peu long, c'est pourquoi en fait personne ne dit ça. J'en arrive donc à la conclusion que je ne sers à rien. Parce que lisez les commentaires des internautes sur la hausse de la consommation de viande, 9 messages sur 10, c'est ouais, on les a bien eu les bobos des médias avec leur propagande, hashtag fuck ensemble vide. Ils voulaient écrire fuck Yannick Jadot des Verts, mais ils ne se souvenaient plus du nom de Yannick Jadot. Dans mon désir de dénoncer le saccage de la Terre, j'avais oublié que j'étais perçu par les gens comme un bobo déconnecté. Et c'est vrai, je roule à vélo, je me nourris que de végétal et je me fais du souci pour rien. Ce week-end sur la une, Anne-Claire Coudray a lancé un reportage sur un camping dans le Nord qui vient d'ouvrir. Hein. Les gens campent en février. Hein. Retour plateau dans ses yeux, on lisait la joie de l'été triomphant. J'ai cru qu'elle allait chanter le générique d'Interville. Elle a raison, on s'en fout s'il y a 20 ans dans le Nord, même en août, on pouvait pas camper. C'est super le réchauffement. Oh chiotte Greta Thunberg, ta mère en Suède en train de bronzer en janvier sur la mer Baltique. Et bouffons de la viande, du bœuf, du veau, du porc, le panda de Brigitte Macron. Ce matin, j'ai mangé le teckel de ma tante. Mangeons aussi Nicolas Hulot, après lui avoir retiré sa dent de requin en collier. Les rois, c'est passé, on n'a pas besoin de fèves. Bref, j'abandonne. Moi aussi, je vais profiter. J'ai trouvé sur le Bon Coin une ZX diesel de 90. Là, elle m'attend avec, je vais à Hippopotamus. Bon appétit.
Bravo. Bravo.
Tanguy Pastureau qui sera le 17 mai à Saint-Thibault-les-Vignes.
Un peu de musique encore, le fabuleux destin d'Amélie Poulain sur cet album cinéma de Renaud Capuçon. Yann Tiersen. Et les grands esprits se rencontrent, Renaud Capuçon. Lang Lang, sur son album Piano Book, a aussi fait une reprise du fabuleux destin d'Amélie Poulain.
Bah, c'est un film iconique français, c'est un film qu'on a tous vu, qui nous a, qui était ce film de Jeunet qui est génial. Jeunet,
ouais.
Totalement décalé. Moi, je me souviens très très bien de. Enfin, je pense qu'on se souvient tous de certains films. Par nos impressions, enfin c'est d'une banalité totale ce que je dis, mais ce que j'ai voulu retranscrire dans cet enregistrement, c'est finalement mes émotions en tant que auditeur et spectateur d'un film, et en même temps, chaque personne qui va écouter ce disque va se reprojeter elle-même avec ses propres sentiments. Donc c'est une sorte de kaléidoscope avec plusieurs
faces. C'est ça, et ça donne envie de revoir les films aussi, de se replonger dans ce qu'on a ressenti. La septième cible, par exemple, aussi figure sur cet album cinéma. Vladimir Kosma.
Un film avec Ventura, génial. Ouais. Ça, j'ai découvert grâce à Kosma. Je ne connaissais pas ce film.
C'est vrai ?
Et c'est une pièce géniale.
Laurent Delmas qui est resté avec nous.
Oui, hélas, pour vous. Mais non. Juste un mot, parce que là, c'est intéressant. Il n'y a pas de réorchestration. En tous les cas, c'est une réorchestration. Dans le film, c'est une scène où il y a un concerto pour violon qui a un rôle très, très important. C'est une scène hitchcockienne où on voit quelque chose qui se passe dans la salle de concert au moment
à la Philharmonie de Berlin.
Voilà. C'est pas juste une tapisserie.
C'est vraiment, il y a un vrai rôle et c'est bien de l'avoir repris, vous, avec votre violon, parce que c'est une très, très belle partition de Kosma.
C'est une super pièce et il a d'ailleurs écrit un concerto. Là, c'est un concerto de Berlin qui dure 8 minutes et il en a fait une version longue, un concerto entier qui dure une demi-heure et que je vais jouer bientôt.
Il y a aussi Mission, d'Ennio Morricone. C'est un album, Renaud Capuçon, qui donne beaucoup de bonheur, vraiment.
C'est gentil. En tout cas, on a eu un immense bonheur à le faire, à le penser, à l'enregistrer.
Et puis, ça vous a aussi apporté, je crois, une belle émotion, c'est l'Olympia. C'est pas courant pour un musicien du répertoire classique.
Non, parce que l'Olympia, c'est une salle plus de variété. Ouais. Et c'était un, même pas un rêve, parce que j'avais jamais pensé jouer à l'Olympia, mais quand on a pensé à un lieu pour décliner ces musiques de films, j'ai émis l'idée de faire l'Olympia et ça a été un moment incroyable. Et même mon fils de 8 ans, Elliot, il s'est rendu compte, parce que le lendemain, il était tout ému, il m'a dit, mais c'est terrible, parce qu'en fait, tu l'as fait, mais tu le feras plus jamais. Il avait compris que c'était un moment très, très intense, et c'était un public différent aussi. C'était pas le public qui vient m'écouter à la Philharmonie ou aux Champs-Élysées. Et en ce sens, je pense que ça ouvre des portes à un public différent.
Renaud, voir son nom écrit comme ça en lettres rouges.
Oui, ça c'était émouvant, mais c'était pas pour le côté égotique, c'était vraiment pour le côté de ce qu'on ressent. Et sur cette scène, il y a quand même des ondes incroyables.
Est-ce que l'acoustique est vraiment adaptée pour
Non, on a amplifié un tout petit peu. Ouais, c'est pas une acoustique de. Non, faut être très, très honnête, c'est pas une acoustique de. On va pas jouer le concerto de Brahms dans cette acoustique.
Ouais, c'était raté, quoi, comme ça.
Non. Non, c'était un tout petit peu amplifié, mais de façon extrêmement subtile. Et ça a été capté par France 3 et ça va passer, je crois, bientôt. Ça montre aussi à quel point on est en retard sur les anglo-saxons qui font des concerts comme ça depuis des années. Il y avait un côté un peu... les Français, on est toujours un peu en retard avec ça. On a un côté un peu pudique, un peu, je sais pas, la musique de film, en tout cas chez les classiques, était considérée comme non pas un art mineur, mais pas un art majeur.
C'est ça, c'est quand même pas forcément très très bien vu.
Non, c'est pas mal vu. C'était simplement une question. Oui, c'était plus une question de tradition. Ça faisait pas partie du même monde. Voilà, il y avait de la musique. Regardez à Radio France maintenant, il y a des concerts de musique de film dans le cadre des concerts de Radio France de façon totalement normale et heureusement. Et bravo.
Absolument. Ici même, il y a quelques semaines.
Il y a toujours pas de musique honorée à Cannes chaque année.
Oui,
il n'y a pas de prix de
musique.
Est-ce que vous pouvez faire quelque chose, Renaud Capuçon ?
Moi, je ne vais rien faire, mais je ne peux rien faire.
Moi, c'est symptomatique.
C'est vrai, ça ?
Moi, je vous propose de continuer en musique, Daniel.
On continue en musique avec Nino Ferrer, La Rua Madureira. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30, l'invité de la bande originale et Renaud Capuçon pour son très bon album Cinéma.
Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la Rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer pour si peu de temps. Et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour et toi tu parlais de ton pays. Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps dans le taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais le jour où j'ai lu ton nom mal écrit parmi tant d'autres noms inconnus sur la première page d'un journal brésilien. J'essayais de lire et je n'y comprenais rien.
taxi qui nous conduisait à l'aéroport. Tu t'es retourné pour me sourire avant de monter dans une caravelle qui n'est jamais arrivée. Non, je n'oublierai jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le nom du Corcovado, la rua Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé.
Nino Ferrer sur France Inter dans la bande originale, toujours avec Renaud Capuçon, Daniel, qui nous présente cet album Cinéma.
Alors lui, je ne sais pas ce qu'il va nous présenter, ça va être la grande surprise. Frédéric Sigrist, en tout cas, c'est son humeur.
Merci Daniel, alors c'est pas vous qui allez me contredire, mais non. Nous les hommes, on n'est pas tous égaux en termes d'élégance.
Ah bon ?
Ah bah non, la semaine dernière, Barack Obama, la version point soleil d'Emmanuel Macron, était invité pour parler virilité moderne avec un groupe de jeunes. Et il s'est présenté ainsi devant tout le monde. « Si vous ne me connaissez pas, je suis le mari de Michelle Obama. » La classe du gars. Et on peut penser ce qu'on veut de son bilan politique, mais en termes d'image, Barack Obama, il a le swag. C'est un peu la Nadine de Rothschild du politiquement correct. Jamais une faute de goût. Le mec a 57 ans, il a une ligne impeccable. Regardez Albert Algou à 38 ans, ça fait pas pareil.
C'est vrai, Obama, c'est vrai.
Oui, Barack Obama, prescripteur. Il a fait péter un blouson bomber noir la semaine dernière depuis, tout le monde le veut. La radio a beau être filmée, désormais, Daniel n'a jamais réussi à relancer la vente de chemises de bûcheron.
C'est vrai.
Barack, c'est un autre niveau. Le gars, tu sens qu'il fait du sport 3 fois par semaine, qu'il mange équilibré, qu'il descend la poubelle sans qu'on lui demande. Barack Obama, je suis sûr qu'il lit des histoires aux enfants en faisant les voix. Qu'il a pas honte de pleurer quand Mufasa il meurt dans le Roi Lion, qu'il se met assis pour faire pipi, qu'il plie le linge propre et qu'il le range dans les armoires, qu'il offre des fleurs à sa femme sans que ça soit la Saint-Valentin, et même sans l'avoir trompé. Barack Obama, apparemment, c'est le mec moderne idéal. Je dis apparemment parce que je suis français et que le français doute naturellement des gens trop propres sur eux. Selon moi, tu peux pas passer ta vie à être un type bien tout le temps. Il y a forcément un moment de craquage. Britney Spears et Miley Cyrus, au début de leur carrière, elles chantaient chez Disney entre Mickey et Dingo. Et puis un jour, tu les as retrouvées en string sur scène en train de chevaucher une banane géante. Et ben, c'est normal, il y a craquage. Ah, les journalistes des Inrocks, c'est pareil. Ils passaient leur vie à encenser des films de gauche, socio-dépressifs à fort teneur progressiste, réalisés par les frères Dardenne, ou le dernier album électro-crooner-rock de Bertrand Belin. Bon, ben un jour, hop, Ligue du LOL, il se transforme en gros beau fréac qui harcèle. C'est humain. En tout mogouai, il y a un Gremlins qui sommeille. Mais chez Barack Obama, t'as l'impression que cette part d'ombre, elle n'existe pas. Ou alors c'est médical, on lui a retiré la tumeur qui rend les hommes cons, on l'a laissé dans un bocal en plein cagnard, ça a macéré, puis un jour c'est sorti en disant « Bonjour, je m'appelle Donald Trump !» Moi j'avoue, je suis pas à la hauteur de Barack Obama. D'ailleurs, pour être franc, je sais même pas si je suis à la hauteur d'Éric Ciotti. Ma tête, des fois, je vais être sincère avec vous, j'ai l'impression que c'est du tuning. Je mets des idées modernes sur des vieux schémas. En tant qu'homme, je suis à la croisée du monde de mon père et du monde que je veux pour ma fille. Mon père était un macho. Ah, j'ai pas d'autre mot pour le décrire, c'était un macho. Pour lui, les préliminaires, c'était pas les caresses, les baisers, tout ça. Et c'était aussi inutile que tout ce qui passe après, d'ailleurs. Hein. Parler, élever les enfants, faire des projets. Bon, les préliminaires, c'est tout. Tout ce qu'il y avait autour du coït. Bon, il est mort il y a 10 ans, mais il aurait été incapable de comprendre le concept même de charge mentale. Tu disais charge mentale à mon père, il t'aurait demandé, mais c'est du triphasé ou du monophasé ? Le mansplaining, le mouvement MeToo, mon père, il aurait pas compris. Ça serait comme essayer d'expliquer le code Wi-Fi à un homme de Néandertal. On part de trop loin. S'il me voyait aujourd'hui en train d'acheter un vélo à ma fille, en train de me poser des questions du genre, ok, elle veut un vélo rose parce qu'elle adore le rose, mais est-ce que son amour du rose n'est pas une injonction et un conditionnement sociétal et patriarcal à aimer le rose ? Est-ce que je devrais pas insister pour qu'elle prenne un vélo bleu, pour ne pas qu'elle soit soumise à l'âge adulte ? Mon père, il deviendrait fou. Jusqu'à maintenant, les hommes, ils n'avaient pas à se poser ce genre de questions. Et je dis pas du tout que c'était mieux. Je dis juste que nous, les mecs, on est en territoire inconnu. Et je pose la question de manière très pragmatique et totalement dépassionnée. À quoi on sert encore ? Qu'est-ce qui fait que les femmes nous ont pas remplacées par une autre femme ou tout autre outil de substitution ? Parce que c'est quoi l'avantage comparatif d'un Jérémy Crédville d'un point de vue strictement utilitariste ? Parce que niveau plaisir, il est une notoriété publique que les femmes peuvent se démerder entre elles. Et d'après ce que je lis, souvent mieux que nous. Ma femme, elle gagne mieux sa vie que moi. Et quant à mes capacités de prédateur pour aller chercher la barbaque, elle sait conduire et trouver toute seule une place sur le parking de la Biocop. Hein. Et niveau reproduction, pareil, les banques de sperme sont potentiellement les antichambres de notre relégation. Les banques de sperme font tout ce qu'on sait faire, les poils dans la douche en moins. Quoi. Peut-être que le futur des hommes, c'est un grand centre avec des treilleuses. Hein. Après la ferme des mille vaches, la ferme des mille bœufs. Jusqu'à preuve du contraire, il faudra toujours une femme pour porter l'enfant. Mais l'homme, stricto sensu, ne sert plus à rien. Une fois notre rôle de donneur accompli. Alors forcément, quand je prends conscience de tout ça, je me dis que finalement, Barack Obama, c'est peut-être la prochaine étape de l'évolution humaine. Et quand j'étais gamin, je rêvais d'être Barack. Et 30 ans plus tard, finalement, je rêve toujours de la même chose.
La bande originale.
Renaud Capuçon sur France Inter avec cet album Cinéma, ces reprises de thèmes musicaux composés exclusivement pour le cinéma. Mais il y a plein d'autres choses dans votre emploi du temps. Renaud Capuçon, ce soir, on vous retrouve à Lyon. L'Orchestre National de Lyon. On vous retrouve aussi le 2 avril au Théâtre des Champs-Élysées.
Avec David Frey pour des sonates de Bach, pour un disque qui est en train de sortir des sonates de Bach, violon et piano. Et puis la sonate à Kreutzer de Beethoven.
Et puis forcément, le rendez-vous tant attendu du Festival de Pâques à Aix-en-Provence, avec deux dates à retenir en particulier vous concernant, le 13 et le 15 avril, mais avec une très belle programmation qu'on retrouve en ligne sur le site.
Festivalpâques.com, c'est un festival où on décline énormément de choses et on est très heureux de les partager avec le public.
Il y a une chasse aux œufs.
Alors ça, ce sera pour Albert, pour faire venir Albert, vous avez compris, voilà, du
comment
chocolat.
Comment faire venir les jeunes à la musique classique, une chasse aux œufs.
Avec Père Albert, à mon avis, vous allez avoir un grand succès, surtout en ce moment, avec le contexte. Il est quand même temps de présenter des excuses, Daniel.
Oh là oui, désolé déjà pour nos auditeurs déglingos qui ont été dépassés par le côté hyper punk de Renaud fucking Capuçon, qui a tellement kiffé l'école qu'il collectionne les carnets et les stylos. Eh ouais, les mecs, ça dépote, c'est le côté néo-punk de Renaud. Désolé pour nos auditeurs férus de musique classique qui ont été un petit peu choqués, qui ont même eu du sang dans les oreilles quand ils ont entendu la critique de Fred Sigrist sur la BO de Out of Africa. Je le cite. Ah, il y en a eu du Kleenex sur cette musique. Oh, c'est pas France Musique, mais ça passe sur RMC. Désolé pour la sœur de Renaud Capuçon qui non seulement n'a pas percé dans la musique mais qui va se retrouver en plus à essayer de soigner la diction de Gary McCreville. Alors mon conseil, il faut commencer par lui trancher la gorge, lui arracher la langue, lui raboter les dents. Courage madame, car en plus il a une mauvaise haleine. Désolé, et désolé encore une fois pour Michel Legrand.
Ah non, arrêtez. Apportez-moi mes fiches.
Ah,
on est perdu sans fiche.
Pardon Mitch, elle recommencera plus. Je vais l'attacher, je vais la baïonner. En plus, elle aime bien.
Si, je vais continuer. Merci Renaud,
merci
à
beaucoup.
Tous. Demain, dans la bande originale, nous recevrons pour la dernière de la semaine Swan Harlow et Charles Berling.
Tout de suite, Philippe Bertrand avec Carnet de campagne. Excellente journée à l'écoute de France Inter.